Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le ténor du 21e siècle qui réunit les amoureux de l'art lyrique, de la pop, du tango, de l'opéra, de la grande variété, des airs sacrés, bref, des plus grandes mélodies, quel que soit leur genre, c'est lui, Vincent Niclot. Œil de braise et physique avantageux qui pourrait lui valoir d'ailleurs d'être casté dans un James Bond. Les plus grands dans leur art le sollicitent, sur disque comme sur scène, de Placido Domingo à Céline Dion. Et ce jeune ténor, résolument moderne, trace sa route au gré de ses envies. Alors voilà, le nouvel album, qui se classe d'emblée parmi les meilleures ventes de disques en France, a pour titre Esperanto et nous offre 6 voix, celle de Vincent Niclot et des prêtres orthodoxes.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue dans l'émission.
Merci Isabelle, bonjour.
Alors cher Vincent Niclot, tout de même, on vit dans une étrange époque. La religion est partout, mais la spiritualité est bien rare. Les religions s'affrontent, on parle de dogme, mais très peu en fait de spiritualité. Le but de cet album, Esperanto, c'est de nous offrir un peu d'élévation, un peu de grâce, de ferveur, même si on n'a pas la foi.
C'est un peu ça, parce que ça résume exactement ce que je suis en fait. C'est-à-dire que je crois vraiment être croyant, mais je n'ai pas mis de nom sur l'entité à laquelle je crois. Et c'est pour ça que cet album était très intéressant pour moi, parce que ça m'a permis aussi de me poser beaucoup de questions. Il faut remettre un peu dans le contexte, je ne devais pas faire cet album, et c'est en regardant The Voice que je suis tombé en admiration devant ces garçons.
Vous avez été happé, en fait,
complètement transcendé.
Polyphonie magique.
Exactement. C'était un ensemble, ils sont 5, polyphoniques. Je me suis retourné, et c'est seulement là que j'ai constaté que c'était des prêtres. Et pour moi, ça n'avait aucune importance dans le sens où ils auraient été garagistes, je sais pas, infirmiers. Bon, c'était pareil.
Ça ne véhiculait rien de religieux,
non,
simplement.
Mais
une forme d'élévation.
Après, je me suis demandé, est-ce que finalement, la question de cet album, c'est est-ce que j'ai été touché par leur voix parce qu'ils sont justement remplis de spiritualité,
voilà,
et de divin, ou alors c'est juste parce qu'ils ont des voix magnifiques. En tout cas, c'est une des deux réponses. Et peut-être les deux. Et c'est ce qui m'a amené à me questionner beaucoup sur moi-même aussi. Parce que je me suis dit, comment, ils sont très jeunes, je me suis dit comment à 25 ans on peut embrasser comme ça une vie et se dédier sa vie à Dieu.
Donc,
je suis allé les rencontrer, c'était très intéressant.
Alors vous allez
pour
un petit peu vite en besogne, parce qu'effectivement on va parler de la première visite que vous leur avez rendue, mais d'abord je voudrais savoir, vous avez été surpris, Vincent Niclot, qu'aucun des 4 coachs ne se retourne en entendant justement cette polyphonie?
Non, et d'ailleurs je les remercie, parce que peut-être... Non, alors pour répondre à la question, non pas du tout, parce que c'est très difficile. On a pu le constater, hein, pour ceux qui connaissent The Voice, coacher une voix, c'est dur. Ils ont fait des fois des trios,
oui,
mais jamais de quatuor, ou encore moins à 5, 6.
Bien sûr,
parce que c'est trop difficile de diriger 5 voix comme ça.
Alors, vous avez pris votre téléphone pour remonter jusqu'à la prod de The Voice et puis obtenir les contacts de ces 5 jeunes prêtres. Et là, on vous a parlé donc du séminaire orthodoxe à Épinay-sur-Seine, où tous... venus de Russie, hein, je le précise, tous sont candidats au sacerdoce. Il faut nous les présenter un peu plus, parce que c'est quand même une sacrée aventure de vie. Vous avez enregistré cet album, vous nous avez confié à l'instant que c'est un autre album qui était prévu. Donc c'était un aiguillage tout à fait inattendu. Et là, vous êtes trouvé face à des jeunes gens qui avaient, d'abord je voudrais comprendre, qui avaient choisi de quitter la Russie pour la France, afin de se destiner à la prêtrise. Pourquoi ont-ils quitté la Russie? Ils parlent parfaitement français?
Parfaitement français, ça fait pour la plupart, ça fait des années qu'ils sont là, donc ils étudient en français. Il faut savoir qu'ils font l'office le matin, mais l'après-midi ils étudient, ce sont des étudiants, ils ont autour de 25 ans, ils ont été nommés par le Grand Pop pour représenter le monde orthodoxe en France, et il y a quand même un dénominateur commun, c'est la musique. Il faut savoir que finalement, nous n'avons pas les mêmes parcours, mais nous avons la même quête. En ce sens que moi, c'est la musique qui m'a donné ma voix, qui m'a fait trouver mon chemin de vie. Et eux, c'est la musique qui les a amenés à la religion. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas prédestinés à être prêtres. Ils sont passés devant des églises, ils ont entendu les gens chanter la musique d'église. Et c'est ça qui les a attirés et qui les a amenés vers la voie religieuse.
Incroyable. Alors, comment les avez-vous convaincus d'enregistrer avec vous un album? Vous leur avez dit qu'il ne s'agirait pas de faire des chœurs, mais que vous seriez bien, en fait, six solistes sur l'album?
C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Vincent et les chœurs, c'est vraiment six voix qui sont traitées de la même façon et qui vont trouver chacune leur espace dans une chanson. Moi, je n'ai pas voulu les convaincre. J'ai voulu juste leur exposer ce que j'imaginais, l'album que j'imaginais qu'on pouvait faire ensemble, et ça leur a plu.
Ils m'ont juste... Mais c'est vous qui avez choisi les titres.
Alors, j'ai choisi les titres. C'est un album qui est très éclectique. Il y a du répertoire de la grande variété française, en tout cas francophone. Donc, il y a deux titres de Jean-Jacques Goldman, mais aussi un titre de Serge Lama, et un titre de Daniel Lavoie. Et il y a du répertoire sacré. Et il y a aussi une chanson du répertoire orthodoxe qui s'appelle Soviet Prevechny. Et c'est...
Mais quel accent!
Merci. Enfin, là, j'ai un petit accent quand
même
en chantant.
En slavon, c'est ça. C'est-à-dire, slavon, c'est la langue qui est presque l'ancêtre du russe que l'on parle actuellement.
C'est ça, c'est l'ancêtre du russe et ça a été leur seule
exigence,
on va dire. Et moi, comme j'adore les défis, tout ça, j'ai dit, écoutez, si vous me corrigez tout ça, bien sûr, je le ferai. Et
vous n'aviez jamais chanté en russe auparavant?
Si, j'avais chanté en russe avec les chœurs de l'armée rouge, une chanson en phonétique.
Oui, une chanson en phonétique. Est-ce qu'il a fallu demander une dérogation, en fait, à celui qui dirigeait le séminaire pour qu'il puisse vous accompagner sur les plateaux de télé, enregistrer des clips avec vous, parce que c'est quand même une aventure particulière?
Ah mais complètement. On a rencontré donc celui qui dirige le séminaire, que je remercie, Alexander, et pour lui exposer le projet, parce qu'il fallait... Alors, on pouvait aborder à peu près tous les sujets, mais évidemment, on ne peut pas dire tous les mots, on ne peut pas non plus aller dans toutes les directions. Et il a validé tous les titres, il a beaucoup aimé les arrangements, même s'ils étaient assez modernes, hein, par rapport à ce qu'eux ont l'habitude de pratiquer. À partir du moment où il n'y a pas blasphème, on n'écorne pas l'image de l'Église orthodoxe, ils sont hyper cool en fait.
Vous avez assisté à des offices avec eux dans la chapelle de ce séminaire?
Ah ben non seulement j'ai assisté, mais ils ont chanté, j'étais autour et je peux vous dire que on avait tous les poils. Et je crois que cet album, c'est un album qui fait du bien. Ce sont des voix qui vous donnent des frissons, qui vous rassurent au plus profond de vous et qui sont chargées d'émotions.
On retrouve tout de suite Vincent Niclot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Six voix puissantes unies autour de grandes chansons françaises et de grands airs lyriques. Voilà ce que nous offre le nouvel album de Vincent Niclot, accompagné de jeunes prêtres orthodoxes. Album qui a pour titre Espéranto et dont le démarrage en termes de vente est assez prodigieux. Alors, cher Vincent Niclot, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Vous souvenez-vous avoir dit à votre mère, quand vous deviez avoir 16 ou 17 ans, « Je t'en supplie, maman, laisse-moi arrêter mes études après le bac. Je te jure qu'un jour, tu seras fière de moi. »
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs, je la remercie, je remercie mes parents. Mon père est chanteur, musicien, donc je le voyais difficilement me dire « Non, ne fais pas ça », même s'il m'a mis en garde, évidemment, parce que c'est un milieu très difficile. Mais maman, comme toutes les mères, elle est très protectrice et elle se dit « Voilà, j'ai pas envie que mon fils galère, j'ai pas envie que mon fils... » C'est déjà même difficile quand on fait des études. Le milieu artistique, c'est tellement aléatoire.
Donc elle vous espérait ingénieur, expert comptable, mais...
Médecin, oui, oui, c'est vrai que si j'avais dû m'engager dans des études, j'aurais fait médecine. J'ai préféré m'engager vers ce qui me plaisait le plus, le chant. Moi, je chante depuis que je suis petit. Je fais mes premiers concours à 5 ans. Mon père m'a appris le solfège à 6 ans. Oui, oui, c'est une vocation. Je pense que j'ai pas... Alors, on me dit toujours, est-ce que ton père avait été boulanger, tu serais boulanger? Peut-être, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir ça au fond de soi pour pouvoir déjà encaisser tous les moments difficiles, les échecs, les moments de doute, traverser
tout
ça.
Vous l'avez vu douter, votre père?
Ah ben oui, mais
son chemin a été compliqué.
Ben oui, papa, c'est bien sûr. Alors, vous savez, après, il y a deux façons de faire le métier. C'est-à-dire, et il y a plein de gens qui ne sont pas dans la lumière... J'en ai fait partie, et qui font leur métier tranquillement et qui ont vécu de leur métier, de leur art, toute leur vie. Et après, c'est vrai que quand on est propulsé devant, comme ça a été mon cas en 2012, eh bien, on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait avant. Mais finalement, si, il y a plein de gens qui vivent de leur métier. Et d'ailleurs, je les salue. Ils n'ont jamais été dans la lumière, mais c'est pas grave. Ils font leur passion.
Voilà.
Et c'est le plus important.
On a dit que votre père était musicien, mais votre grand-mère chantait de l'opéra, je crois, non?
Oui, Mamie était vraiment une chanteuse d'opéra. Alors, pas du tout professionnelle, mais elle avait une voix, une très jolie voix. Et puis, j'ai appris que ma mère m'a dit comme ça par hasard, quand elle était enceinte de moi, qu'elle écoutait du classique. Alors, peut-être que c'est ça qui m'est venu me piquer quand j'étais encore un embryon. Parce que c'est vrai qu'à ce jour, mes parents se demandent toujours pourquoi je suis partie dans une direction lyrique.
Oui, parce que adolescent, Vincent Niclot, en fait, vous rêviez de monter sur scène pour vous exprimer de quelle façon? Vous vous imaginez en chanteur pop?
Oui, je m'imaginais en chanteur pop. Moi, mes modèles, c'était des chanteurs pop. Donc, j'avais même pas pensé une seule fois au chant classique.
Mais vous ignoriez que vous possédiez en fait une voix de ténor? La révélation n'avait pas encore eu lieu, c'est ça?
Ah bien sûr, parce que d'abord, je peux vous dire quelque chose, après ça peut être un peu technique, mais tant qu'on n'a pas travaillé sa voix pendant au moins un an et demi, deux ans, on ne peut pas savoir si on est prédestiné. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je me souviens avoir parlé avec Nathalie Dessay, j'ai eu la chance de travailler avec elle.
Oui, et elle a dirigée découvert... par Michel Legrand, oui, au Théâtre du Châtelet, pour
exactement,
une production des Parapluies de Cherbourg.
Et je dis, comment t'as découvert ça? Mais elle l'a découvert complètement par hasard aussi. Donc parfois on a quelque chose en soi et on va passer à côté, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai eu un choc à la radio en écoutant Pavarotti. Je me suis dit, waouh, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, j'aimerais
le
trop savoir.
Ouais. De Puccini.
C'est ça, j'aimerais trop savoir faire ça. Et du coup, j'ai rencontré un professeur de l'Opéra de Paris. On a travaillé ensemble. Ça a été vraiment mon mentor.
Mais alors, vous allez toujours trop vite en besogne, parce que je voudrais creuser un petit peu. Moi, il y a une chose qui, franchement, me surprend. C'est que le tout premier défi que vous vous êtes choisi, ça a été de réussir comme acteur, pas comme chanteur. Vous avez fait le cours Florent, d'ailleurs vous étiez sur les bords du cours Florent avec Guillaume Gallienne, puis le cours Simon, vous avez même fait un stage à l'Acteur Studio, on était loin du chant.
Oui, complètement. Mais
pourquoi ?
En fait, non. Mon objectif, depuis que je suis petit, c'est chanteur. Sauf que les cours de chant, ça coûte très très cher. Pour gagner ma vie, je faisais toutes sortes de castings, parce que j'avais du temps, donc de la mode, de la pub.
Ouais.
Voilà. Et un jour, il y avait des castings de comédie, j'ai fait casting, ça a marché. Je me suis dit quand même, j'ai été pris en tant que comédien, j'ai jamais pris un cours. Donc, c'est pour ça que
donc
je
vous
me
avez
suis...
d'abord été casté comme comédien, avant de prendre des cours de comédie.
C'est ça.
Formidable.
Et du coup, je me suis dit, faudrait quand même que t'apprennes ton métier, mon gars. Donc j'ai passé le concours Florent, ils m'ont mis directement en troisième année et je me suis retrouvé dans cette classe fantastique.
Donc vous auriez pu continuer sur cette voie-là, c'est quand même incroyable parce que vous avez participé à plusieurs séries pour la télé, de Nestor Burma à Sous le Soleil, et puis vous avez même décroché une apparition dans le film Place Vendôme de Nicole Garcia face à Catherine Deneuve.
Oui.
Et voilà, et Jean-Pierre Bacri. Donc en fait, à cette époque-là, vous pensiez vraiment que votre voix serait l'acting, ce serait jouer la comédie?
Pas du tout. J'ai jamais...
Vous saviez que c'était... Confusément, vous sentiez que c'était provisoire?
Je sais pas si c'est... J'en referais peut-être, mais en tout cas, c'était pas mon but. Ça me faisait gagner de l'argent pour payer mes cours. C'était seulement ça. Et en même temps, je trouvais que c'était... J'étais fan de comédie musicale. Ça m'apprenait aussi le métier d'acteur. Et je trouve que tous mes modèles, moi, sont plutôt anglo-saxons et ils savent chanter, jouer la comédie, danser. Je me disais que c'était bien d'avoir plusieurs bagages.
Alors le chant pour vous, Vincent Niclot, a démarré... Pas par le chant classique en fait, mais par des mélodies, donc dans des comédies musicales. La liste, elle est impressionnante. Hein. On a le sentiment d'ailleurs qu'au début des années 2000, on ne pouvait pas monter une comédie musicale sans vous. Titanic à l'Opéra d'Avignon, et vous l'avez joué aussi à Londres, je crois. West Side Story, Les Liaisons Dangereuses, Tristan et Isolde, Roméo et Juliette, et puis enfin le rôle qui vous a révélé au grand public, Red Butler dans Autant d'emporte le vent. Tous ces rôles-là, ils ont façonné votre voix ou bien vous avez travaillé comme si vous rêviez un jour de chanter sur la scène de la Scala de Milan? Pendant que vous preniez vos cours, quelle était secrètement la cible que vous visiez?
C'est très intéressant de répondre à cette question parce qu'en fait, je vais être un peu technique. Quand j'ai pris les cours avec mon professeur, il m'a dit à un moment, t'es arrivé à un niveau où il faut que tu choisisses. C'est-à-dire où tu vas vers le monde lyrique, où tu restes vers le monde pop. Mais ça va être très compliqué pour toi si tu prends une formation classique de retourner vers la pop. Et moi, je lui ai dit, mais non, moi, je voudrais faire les deux. Je ne veux pas choisir. Et donc, il m'a dit, écoute, il va falloir qu'on arrête de travailler le côté classique parce qu'après, il y a une espèce de déformation. Après, c'est très technique ce que je veux dire.
Oui, voilà,
on soulève la voix et on va dans une voûte en arrière. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez demander souvent à des... grandes cantatrices ou des... ils ne savent pas, par exemple, faire Frère Jacques. Ils vont faire Frère Jacques. Ils ne savent pas faire frère Jacques à plat, ce qu'on appelle à plat. Et moi, je voulais pas.
Parce ils ne savent pas détimbrer, en fait.
Non, ils ne savent pas détimbrer parce qu'ils ont tellement travaillé leur voix qu'il y a comme une. Enfin, il y en a certainement qui arrivent, mais la plupart, ils n'y arrivent pas. Et moi, je ne voulais pas perdre ça parce que j'avais envie de faire de tout.
Vincent Niclot est avec nous cet après-midi. On fait une pause très courte, c'est promis. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors, cher Vincent Niclot, vous êtes un ténor. Et les ténors possèdent la tessiture masculine la plus haute, la plus aiguë, hormis bien sûr les hautes contres qui chantent du baroque. Vous êtes un ténor qui ne chante pas Mozart ou Verdi, même si vous le pourriez. C'est un choix. Alors justement, parlons de la vie des ténors d'opéra. Est-ce que vous supporteriez la rigueur absolue, exempte vraiment de toute liberté, justement, de ces vies de ténors d'opéra ?
Non, et d'ailleurs, je tiens à saluer ceux qui le font. Pour en avoir parlé, j'ai travaillé quand même avec quelques grandes stars du monde de l'opéra. Et c'est vrai que c'est une rigueur qui vous demande de vous oublier vous-même, en fait. C'est tellement compliqué. Il faut savoir qu'à l'opéra, on joue 3-4 soirs maximum. On se prépare pendant 2 mois. Et si pendant ces soirs-là, bien, vous êtes malade, bien, personne ne peut vous sauver. Et donc, c'est un monde cruel.
On ne vise que la perfection, c'est
voilà,
ça ?
C'est que la perfection. Et si vous n'êtes pas bien le jour J, eh bien, ça vous retombe dessus.
En fait, faire de la scène quand on chante de l'opéra, c'est comme chaque fois faire les Jeux Olympiques. Quoi.
C'est ça, exactement. Et puis, c'est des heures et des heures de vocalise tous les jours. Ça relève vraiment de l'exceptionnel. Et donc, moi, je ne me voyais pas... je suis un peu comment dire, un électron libre. Et j'avais envie de garder en plus ma liberté. Il m'est arrivé de travailler à l'opéra. Et c'est vrai que vous devenez un instrument. Et ça ne me plaisait pas, ça. Donc je me suis dit, c'est pas grave, pourquoi tu n'essaierais pas de faire le répertoire qui te plaît ?
Ben voilà.
De mélanger, d'aborder... Alors ça m'est arrivé d'aborder du Mozart, d'aborder des grands compositeurs classiques.
Mais vous évoquiez tout à l'heure ce qui avait été une forme de révélation pour vous la première fois que vous avez entendu justement ce fameux Nessun Dorma interprété par Pavarotti qui est au début du troisième acte de l'opéra de Puccini, Turandot.
Oui.
Bon, ça... Je vous ai réécouté hier, en préparant cette émission, je vous ai écouté l'interpréter, ce fameux air. Chanter ce type de répertoire, c'est pour vous l'exercice de virtuosité ultime ou la virtuosité ultime, elle peut se placer ailleurs, en fait ? Quand, par exemple, on chante « All by myself » devant Céline Dion.
Bon, là, c'est pas de la virtuosité, c'est de l'arrogance, c'est de la... C'est vraiment de la folie d'avoir fait ça. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais en même temps, c'est quelque chose qui se refuse pas. Mais c'est vrai que quand j'ai chanté devant Céline Dion, on m'a dit « Tu vas chanter All By Myself ?» Je me suis dit « Bah oui !» Parce que c'est mon caractère, je suis un fonceur, je suis capricorne. Et j'ai pas réalisé sur le moment, j'ai travaillé, j'avais envie de lui proposer. Pour répondre à votre question, c'est que je lui ai proposé une version de All By Myself différente. Et c'est ce que j'aime faire,
ouais,
en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai un parcours vraiment très éclectique, très différent. Je suis un autodidacte.
Vous avez commencé d'ailleurs par enregistrer, en fait, des albums disco.
C'est vrai, oui.
Hein, disco, de la pop, du tango, la variété française, l'opéra, les chants sacrés. Et puis, vous avez fait le crooner aussi.
Avec Gentleman Forever. Je suis parti faire du jazz avec Michel Legrand.
Mais
j'en
oui.
avais jamais fait. Mais c'est ça, pour moi, la liberté pour laquelle je me suis battu, c'est celle-là. C'est de pouvoir aller dans différents répertoires avec des monstres qui représentent ces répertoires-là. Travailler avec Michel Legrand face à face au piano, je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Chanter avec Nathalie Dessay ou d'autres grands chanteurs, Placido Domingo, ou chanter devant Céline Dion ou avec elle, enfin, c'est des choses que j'imaginais même pas, mais c'est ce qui m'apporte énormément, c'est ce qui m'enrichit artistiquement. Je me suis planté hein, parfois, mais c'est pas grave, hein, on apprend. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce métier, ne pas rentrer dans une case. Et c'est ce qui dérange aussi beaucoup.
Ah ben, ça dérange effectivement, parce que vous évoquez à l'instant Nathalie Dessay qui a été vraiment l'une des plus grands, peut-être la plus grande oui. soprano coloratour au monde, mmh. et qui a décidé de changer d'aiguillage. Vous avez travaillé avec elle sur la scène du Châtelet, donc dirigée par Michel Legrand. Certains puristes ont considéré la démarche de Nathalie Dessay comme une trahison, n'est-ce
oui,
pas
c'est
Et
vrai.
Vous l'avez évoqué, ça, avec elle. Elle s'est confiée à vous. Elle en était malheureuse de ce ressenti extérieur de la part du monde de l'opéra.
Non, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a eu t'étais tellement adorée, tellement publicité, tellement presque la meilleure au monde, que finalement ça lui passe au-dessus. Mais par contre, elle a été libérée, et ça elle me l'a confié, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, elle a été libérée de la pression. Parce que quand on chante comme ça aux quatre coins du monde, et qu'on a des engagements à l'année, sur 5 ans, on a son agenda qui est complet, on a une pression constante, on ne se repose jamais, et on doit être toujours au top. Et d'avoir lâché ce monde-là, ça l'a beaucoup, ça lui a, elle a trouvé la vie très cool. Voilà.
Si je vous demande comme ça, de manière totalement improvisée, quelques notes du fameux Nessun Dorma, est-ce que vous nous les offrez, Vincent Niclot ?
Ouais, je suis pas chauffé, mais je vais essayer. Nessun Dorma, Nessun Dorma, tu pure o principessa. Voilà.
Ça y est, on s'envole. On retrouve tout de suite Vincent Niclot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Vincent Niclot, il y a dans votre carrière une année prodigieuse, où toutes les planètes s'alignent, une année au cours de laquelle, par votre voix bien sûr, vous prenez réellement une stature internationale, c'est l'année 2012. Alors, cette année-là, vous partez à Moscou, rencontrez les chœurs de l'Armée Rouge, vous enregistrez un album avec eux qui devient disque de platine, vous êtes invité par le Kremlin à chanter à Moscou pour la fête des armées, vous poussez donc la belle Lavoche devant Vladimir Poutine et Medvedev, tous les deux conquis. Et puis de retour en France, comme ça, et ben c'est Céline Dion que vous impressionnez par votre interprétation de All By Myself, au point que Céline Dion vous demande d'assurer ses premières parties à Bercy. Vous pouvez nous raconter déjà, dans un premier temps, le Kremlin, Poutine, la fête des armées à Moscou et les 150 millions de téléspectateurs russes qui vous écoutaient en direct.
En direct. Là, c'était en direct, donc c'était sans filet. En fait, d'avoir travaillé avec les chœurs de l'Armée Rouge, eh bien, ça a été, ça a retenti jusqu'en Russie. Et puis, du coup, il y a une grande fête là-bas qui s'appelle la fête des armées, qui sollicite donc la Russie, mais pas que tous les pays limitrophes. Donc, c'est un peu un mini Eurovision pour cette soirée qui est, c'est la fête des armées. Donc, il y a toutes les personnes gradées qui sont au Kremlin. Et c'est un grand show
plus,
à la télé.
Donc, c'est très, très officiel.
Oh là là, c'est super officiel.
Voilà.
Et il y avait donc c'était retransmis à la télé et ils m'ont demandé de venir chanter une chanson qui n'était pas Ameno, qui était une autre chanson de mon album qui s'appelle Non Omai, avec la scène du Kremlin. Je m'en souviendrai toujours, j'avais jamais
chanté. Ça ressemble à quoi? Moi, je suis allée sur la place rouge devant le Kremlin, mais à l'intérieur.
À l'intérieur, c'est vous êtes. Alors, vous parliez tout à l'heure de James Bond. Moi, je suis fan de James Bond. J'avais l'impression de rentrer dans un James Bond, en fait, d'être moi-même James Bond, parce que il y a 40 contrôles de sécurité. Ensuite, surtout pour la fête des armées, vous imaginez.
Mais oui.
Vous voyez tous ces gens armés, 40 contrôles, et puis vous rentrez. Et alors, le Kremlin, la salle du Kremlin, c'est gigantesque. C'est 8000 personnes avec un balcon qui s'étend sur des mètres.
À la salle peut contenir 8000 personnes. D'accord.
8000 personnes. Et la scène est... J'ai jamais vu une scène aussi large. Et de chaque côté, il y avait 100 musiciens et de l'autre, 100 chœurs de l'Armée Rouge.
Bercy, après, ses petits bras.
Presque. Non, non, bien sûr, Bercy, c'est encore plus. Mais je vous raconterai une anecdote sur Bercy.
Mais
vous
j'espère
allez rigoler.
Bien.
Et donc, j'arrive là-dessus, moi, et je me dis, bon, bah écoute, de toute façon, il faut y aller. Quoi. Voilà, j'avais pas d'autre choix. Je suis invité, il faut y aller. Donc, répétition, c'était gigantesque, je me sentais tout petit, puis surtout une langue que vous ne comprenez pas. Donc on m'a dit qu'on allait me taper sur l'épaule quand j'allais rentrer. La seule chose que j'ai compris, c'est Vincent Niclot, j'ai entendu comme ça. Et puis du coup, c'était à
alors,
moi de
rentrer. Alors vous chantiez en phonétique ?
Ah non, alors j'ai chanté de mon album Opéra Rouge.
D'accord.
Donc c'était moitié italien, moitié français.
D'accord.
C'était
alors, vous regardiez Vladimir Poutine pendant que vous chantiez ou bien vous évitiez ?
Franchement, j'ai évité. J'étais concentré surtout sur ce que je faisais. J'essayais de regarder la caméra gros plan et puis de vraiment être dans la chanson, parce que je trouve que ce qui est important quand on fait une scène, quelle qu'elle soit, c'est de savoir ce qu'on raconte et d'essayer de passer ce message à l'audience. Pour vous dire la vérité, c'était une ambiance très froide.
Ben oui, j'allais vous demander, en fait, les officiels russes, quand ils sont conquis et quand ils sont au top de l'euphorie, ils applaudissent comment ?
Oh
presque
bah...
pas, c'est ça, mais ils sont contents. Comme ça, voilà. D'accord.
Mais au maximum du top du top.
Voilà, hein. voilà.
Et quand ils vous regardent, on a l'impression qu'ils s'ennuient.
Bon, ça se déroulait en 2012. Qu'avez-vous vu de Moscou, Vincent Niclot ? Comment le pays, comment les gens vous sont-ils apparus ? Vous avez eu l'occasion de vous balader un petit peu dans les rues ?
Oui, bien sûr. J'espère, à chaque fois que je visite un pays, grâce à mon métier, j'essaye de trouver, de prendre le maximum de la culture du pays, des gens, d'aller à leur rencontre. J'y suis allé nombre de fois en Russie. J'ai eu cette chance et c'est vrai que j'ai découvert... j'ai découvert ça dans des... J'étais un peu privilégié, hein, c'est-à-dire j'étais amené... Je suis allé dans des endroits où personne ne va. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré les chœurs pour faire le projet avec Opéra Rouge, j'ai été dans une ancienne base militaire russe. Alors là, c'était Kalachnikov, les barbelés. Enfin, c'était vraiment, j'étais dans un film.
Je serais content quand j'en sortirais, c'est ça.
Et je suis rentré dans un théâtre des années 50.
Ah oui.
Ils avaient un théâtre à l'intérieur des années 50 et il y avait ces 60 chœurs qui ont fait un spectacle juste pour moi. Et mon équipe, évidemment, on était là et je vous jure que c'est vrai, on était tous en pleurs à la fin. C'est-à-dire que ces 60 voix, ça vous transperce. Vous voyez, je vous en parle, j'ai encore les... Vous ne savez pas quoi faire d'autre, vous êtes prostré et vous recevez une telle dose d'émotion que vous êtes conquis, quoi.
Alors, cher Vincent Niclot, cette année-là, la fameuse année 2012, votre public est donc passé de Vladimir Poutine à Céline Dion, devant laquelle, sur un plateau de télé, vous êtes allé cueillir les notes glorieuses de All By Myself, chanson, j'ai envie de dire, athlétique, chanson à n'interpréter que si on est un virtuose du chant et qu'on a une tessiture de plus de 3 octaves. Je voudrais savoir à quel moment, en fait, et comment avez-vous appris que votre prestation avait convaincu Céline Dion au point de faire que, elle vous demande d'assurer la première partie de tous ses choix à Bercy?
J'ai voulu me mettre, quand j'ai accepté, hein, faut être fou et avoir de l'audace, mais je me suis dit que ça pourrait être pour moi un tremplin si j'y arrivais. Et surtout, je me suis mis à la place de Céline Dion, je me suis dit, Céline Dion, elle a dû entendre 40 000 versions de All By Myself, ça doit la saouler en fait, à chaque fois que quelqu'un lui dit, on va faire une version. Donc j'ai essayé de faire ma propre version avec les chœurs et de l'aborder justement avec un côté vraiment, vraiment plus classique par moment et redescendre en pop par moment et tout. Et j'ai vu, je la voyais du coin de l'œil.
Et tout à coup,
elle regardait un peu en bas et tout d'un coup j'ai vu qu'elle a levé la tête. Et là je me suis dit, ça y est, je pense que j'ai son attention. Et je me suis dit, peut-être que cette chose-là a marché. Et du coup, c'est seulement au moment où je me suis tourné vers elle, parce qu'on m'avait demandé à la réalisation de le faire, pour faire la note, que là, j'ai compris dans quel stress je m'étais mis, parce qu'il fallait faire la note.
Mais
je me
suis dit, face à Céline Dion, tout de même.
Face à Céline Dion et en direct. C'est-à-dire que si vous vous ratez, vous ratez devant 5 millions. Il y avait 5 millions de personnes devant la télé, devant elle et en plus devant 5 millions de personnes. En gros, votre carrière, elle est foutue.
Voilà.
Donc, j'ai pris le risque, on y est allé, ça a marché. Et c'est dans les coulisses, il y avait René Angéli qui n'était pas loin. Et c'est à partir de ce moment-là, et surtout quand j'ai fait Ameno,
ouais,
avec les chœurs, que là, ils se sont dit, mais ça serait pas mal pour notre première partie à Bercy.
Alors, quand vous songez à cette aventure Bercy avec Céline Dion, quelles sont les images, les émotions, les péripéties peut-être qui remontent comme ça à la surface de la mémoire?
J'ai profité du moment 2000%. Ça va vous paraître dingue ce que je vous dis, mais je n'ai pas eu un seul moment de stress. Et c'est grâce à Céline, parce que Céline m'avait fait venir à Las Vegas pour que je voie son spectacle et puis pour me parler un peu. Vous savez, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est une immense star comme on sait, mais qui est super simple. Et elle m'avait dit, Vincent, je voudrais te parler de la première partie, est-ce que tu me permets et tout. Et je dis, ben oui, bien sûr. Moi, j'étais même étonné qu'elle me demande ça. Et du coup, elle m'a dit, tu sais, tu vas avoir peur, mais je vais te dire un truc très bête, profite de l'instant présent, parce qu'il ne faudrait pas que, en te retournant, tu regrettes d'en avoir laissé une miette. Si tu prends du plaisir, elle m'avait dit une deuxième chose, si tu prends du plaisir, tu vas en donner aux autres. Et c'est ça qu'ils attendent. Et donc, j'avais bien compris son message. Et ben, je peux vous dire que ces deux phrases, ça m'a changé à vie. Et que maintenant, j'aborde les choses. Il faut accepter de pouvoir se tromper. Mais ce qu'il faut, c'est donner tout ce qu'il y a à donner et profiter.
Alors, ce qui est certain, Vincent Niclot, c'est que vraiment les meilleurs dans leur art vous sollicitent. Hein. Si on avait le temps, on évoquerait par exemple Placido Domingo, qui vous avait invité à chanter sur son album de Noël. Michel Legrand, c'est lui qui a insisté pour vous rencontrer et vous donner un rôle, donc, face à Nathalie Dessay et face d'ailleurs à Laurent Naouri, qui a un baryton basse exceptionnel.
Bien
voilà.
Sûr.
Et On a évoqué tout à l'heure rapidement l'album Forever Gentleman. Alors là, dans vraiment la lignée de ces fameux conneurs du Rat Pack, les fameux Dean Martin. Alors, j'ai une question à vous poser comme ça, juste avant qu'on fasse une courte pause. Vous avez enregistré, sur cet album Forever Gentleman, vous avez enregistré I've Got You Under My Skin avec Paul Anka, crooner mythique. Vous avez enregistré ensemble ou bien vous avez posé vos voix séparément, chacun à l'autre bout du monde ?
Oui, alors souvent, on pose les voix séparément, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de faire deux télés avec Paul Anka, donc c'est encore mieux. J'ai chanté
donc
avec
vous avez
lui.
Chanté en duo avec lui ?
Oui, j'ai chanté en duo, un vrai duo avec lui. Et c'était même, c'était un trio, à vrai dire. Il y avait Danny Briand avec nous, puisqu'on était trois sur le titre.
Ouais.
Et on l'a fait en télé, donc c'était juste immense de le rencontrer. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que toutes ces méga stars que j'ai eu la chance de croiser, ben, elles sont d'une gentillesse et d'une simplicité, mais déconcertante. Et ils ont été extraordinairement gentils avec moi.
On retrouve tout de suite Vincent Niclot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il faut plonger dans la beauté des voix du nouvel album de Vincent Niclot, Esperanto. Vincent Niclot et les prêtres orthodoxes. Mais alors cher Vincent, pour un artiste, faire son premier Olympia, ça reste une symbolique essentiellement professionnelle. Pour vous, eh ben ça a été bien au-delà de ça. Ce premier Olympia vous a fait en quelque sorte retrouver vos parents qui refusaient de se voir depuis plus de 25 ans, n'est-ce pas ? Depuis votre enfance. Il faut absolument que vous nous racontiez.
Oui, alors voilà, sans vouloir faire dans la sensibilité.
Non, mais c'est factuel et c'est tellement fort.
Alors c'est la vérité, c'est que mes parents, comme beaucoup, ont divorcé et ils se sont plus parlé. Voilà, ça arrive. En tout cas, c'était très froid et encore pour en rajouter un petit peu plus, mon frère ne parlait pas à mon père non plus. Donc voilà, j'ai déjà une toute petite famille, mais en plus, ça a été éclaté. Bon, c'est pas grave, moi je m'y suis fait, on s'adapte à tout. Et c'est vrai que pour mon premier Olympia, pour moi, c'était une victoire collective. Je voulais faire plaisir à mon père, je voulais faire plaisir, parce que c'est un chanteur.
Et puis, vous n'avez pas un pseudonyme, Niclot, c'est le nom de famille.
Exactement. Et je voulais que mon père voie ça, je voulais que ma mère, qui m'avait fait confiance, voie ça. C'était voilà, maman, t'as bien fait de me faire confiance, que mon frère aussi, que j'adore, voie ça. Enfin, et pour moi, c'était inconcevable que je fasse mon premier Olympia sans qu'ils soient les trois assis l'un à côté de l'autre.
Mais ils ne s'étaient pas vus depuis 25 ans.
Ma mère et mon frère, si.
Oui, mais pas vos parents.
Exactement. Ni mes parents, ni mon frère et mon père. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les un par un. Et je peux vous dire qu'ils me connaissent. J'ai pas rigolé ce jour-là. Je leur ai dit, voilà, si vous me faites cet affront, si vous n'avez pas le courage d'oublier vos querelles et de venir, parce que pour moi, c'est un jour un des plus importants de ma vie, et pendant 2 heures, oublier vos querelles et venir, vous asseoir l'un à côté de l'autre et d'être, voilà, comme si on était une famille réunie, même pour un soir, je ne vous parlerai plus. Et ils ont pris vraiment ça au sérieux. Et en tout cas, ils ont réfléchi et ils sont venus. Donc pour moi, c'était une double victoire.
Alors ils sont venus et bien sûr, j'imagine que vous aviez prévu les places côte à côte.
Bien sûr, ils étaient
bien au centre, deuxième, troisième, quatrième rang, c'est ça ?
Bien au centre, bien au milieu.
Oui.
Je ne voulais pas qu'ils soient trop près non plus parce que ça m'aurait déstabilisé. Je voulais pouvoir les voir quand j'en avais envie.
Mais alors lorsque... La toute première fois, vous les avez aperçus comme ça, dans la pénombre, mais immédiatement, vous avez reconnu leur silhouette.
J'ai failli. D'abord, j'y croyais pas. Pour vous dire la vérité, c'est que je suis allé voir derrière le rideau pour voir si c'était vraiment là. Quand je vous en parle, je suis très ému. Mais c'est vrai que j'y croyais pas. Ça m'était pas arrivé depuis que j'étais adolescent. Donc, c'était quelque chose de très magique, quoi. Et donc, j'étais dans une euphorie, mais on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que j'étais au-dessus de la scène. Et c'est vrai que j'ai tout donné ce soir-là, parce que je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie.
Le champagne était prévu dans la loge. Chacun s'est parlé
c'est marrant.
Ensuite.
Non, on a des poids communs. Bien sûr que je me suis dit, bon, l'after show, comment ça va être ? Parce que ça va être tendu de chez tendu. Donc, j'avais bien demandé à ce qu'on prépare le champagne, tout ça. Et c'est vrai que les premières minutes, c'était une catastrophe, jusqu'à la première coupette, parce que j'ai dit, je les servais comme ça, buvez.
Voilà, et vous essayez de provoquer les conversations,
et
de les
ça,
connecter
alors,
l'un à l'autre.
Voilà, c'était froid. Et à la fin, c'était redevenu presque comme avant. Et depuis ce jour-là, regardez
c'est
comme l'histoire est jolie.
C'est ça que
j'allais vous demander. Qu'on n'avait jamais fêté Noël ensemble parce que c'était impossible. Et depuis ce jour-là, on a fêté Noël ensemble. Et c'est, pour moi, c'était comme si, je sais pas, c'était un miracle.
On va rester sur ce mot. Alors, cher Vincent Niclot, le cinéma, c'est pour quand ? Parce que vous qui étiez sur les bancs du cours Florent avec Guillaume Gallienne, j'aimerais bien savoir si vous avez envie de vous projeter dans une carrière d'acteur ou bien si vous estimez que ça serait quand même assez difficile d'accommoder ces deux vies en parallèle.
Alors, je suis tellement comblé par ma vie de chanteur que je n'y pense même pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un projet là, bien, qui avance très très bien et très, assez vite. Oui, de téléfilm, c'est pas du cinéma. Mais oui. Il y a aussi un projet, vous savez comment les films mettent du temps à se faire. Hein, donc, j'ai aussi été contacté pour un film. Bon, écoutez, j'adorerais le faire parce que c'est une histoire fabuleuse que même moi-même je ne connais pas. C'est un biopic.
Oui.
Et en fait, la star que ça raconte a une vie extraordinaire que personne ne connaît. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Donc, peut-être que je ferai ça. Mais en tout cas, il y a un téléfilm qui est dans les bacs là. Pour l'instant, enfin, en tout cas en phase de développement, c'est assez avancé et on verra. Je donnerai toujours priorité à la voix, à mon métier de chanteur. Mais maintenant, si je peux jouer, j'adorerais ça. Récemment, j'ai présenté des émissions.
Oui.
J'ai été piqué. Au départ, on m'a proposé ça, voilà, parce que c'était une émission sur les grandes voix classiques. Oui. Donc, ils me trouvaient légitime pour le faire. Et puis, du coup, vous êtes prêt au jeu ? Bah, sur le moment, j'aime les challenges. Je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Et puis, ça a très bien marché. Du coup, France 3 m'a confié une émission le 24 décembre, justement, le réveillon.
Ah, mais alors, dites-nous, ouais, le soir du 24. En fait, on va passer la soirée de Noël avec vous, bah, sur
voilà,
France 3.
Si vous pouvez pas rejoindre votre famille, que vous êtes un peu isolé, bah, vous pouvez passer le réveillon avec moi le 24 décembre au soir sur France 3.
Que nous proposez-vous dans cette émission, Vincent Niclot ?
Eh bien, c'est un show de Noël avec une pléiade d'invités tellement divers qui ont répondu à mon invitation. Je suis déjà. Je suis tellement gâté. Alors, ça va de Nathalie Dessay à Jane Birkin, en passant par plein d'autres artistes. Il y a Sarah Brightman aussi qui est venue.
Grande chanteuse lyrique.
Exactement. Il y a Roberto Alagna, il y a les danseuses du Moulin Rouge, il y a les danseuses du Lido.
Tout ce qu'il faut pour passer Noël dans l'euphorie.
Il y a Amir, il y a toute la jeune génération, il y a Florent Pagny, il y a Patrick Bruel. Enfin, il y a vraiment des invités incroyables.
Bon, le 24 décembre, on sait qu'on sera sur France 3 face à votre show. Et dites-nous, vous faites votre émission de radio sur BBC 2 en Angleterre, vous l'animez toujours ?
Alors, pour l'instant, vu les problèmes sanitaires, c'est à l'arrêt. Je peux même pas aller en Angleterre, hein, donc non, pour l'instant ça s'est arrêté, mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir aussi à faire ça. C'était pareil, c'est arrivé par hasard. J'ai sorti un album en Angleterre qui s'appelait Romantique. Ils cherchaient quelqu'un pour faire la Saint-Valentin,
ouais.
Qui est un accent. Moi, j'ai un accent assez puissant, et ils aiment bien l'accent français.
Alors voilà, à nouveau l'image du séducteur Frenchy, la beau gosse attitude.
Non, c'est pas la beau gosse attitude, c'est que en fait, bon, le côté français. Alors, vous savez, il y a toute une image autour du français, le français soi-disant romantique, Paris c'est la ville de l'amour, j'ai sorti un album qui s'appelle Romantique, donc franchement c'est pour ça, c'est parce que j'étais, enfin ils ont vu tout ça et le directeur de la BBC a vu ça et il m'a dit mais attendez, vous faire des essais à ce garçon, voilà, il savait que je parlais anglais et ils m'ont donné une liste d'invités qui voulaient, parce que mon émission Carte Blanche mettait en avant des stars françaises connues,
ouais.
Outre-Manche.
Oui.
Et la liste, elle était mais hyper compliquée. C'était Brigitte Bardot, il y avait Jane Birkin, il y avait Jean-Paul Gaultier. C'était tous les milieux en fait de la mode,
oui, oui.
De la culture. Et finalement, eh bien, j'ai réussi à les convaincre. J'y suis allé moi avec.
Et vous êtes fait intervieweur pour la BBC Two.
Oui, c'est ça.
C'est génial.
Et c'est moi qui suis allé démarcher les stars. Il n'y avait pas quelqu'un pour le faire. Je l'ai fait moi-même.
Ce jeune homme est étonnant. Il a tous les talents. On retrouve tout de suite Vincent Niclot. Vincent Niclot, une voix de ténor, puissante et claire, c'est un joyau. Mais avec une voix de ténor, on ne peut pas tout chanter. C'est une voix sans fêlure. En fait, un chanteur lyrique, par exemple, n'aborde jamais le blues.
Attends,
parce qu'il n'y a pas de groove. Un chanteur lyrique ne groove pas. Et là, on a l'impression que ce sont d'autres capacités, d'autres dons, d'autres aptitudes, en fait, qui sont sollicitées.
Exactement, c'est bien pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans une formation trop poussée dans le classique, parce que je n'aurais pas pu en ressortir. Et d'ailleurs, ça a été certainement, on en a parlé avec Nathalie Dessay, je reviens à elle, parce que c'est une des rares qui a fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, elle est passée du classique à la variété, et elle a eu un grand problème, justement, pour commencer à swinguer, commencer à se libérer.
Voilà, être dans le lâcher-prise.
Et le lâcher-prise de ce carcan qui est un peu le, voilà, la note bien placée, sur la bonne mesure, au bon moment, bien vibrée comme il faut. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est un peu figé. Mais en fait, le blues... On peut pas, enfin moi par exemple, je peux pas racler ma voix. Vous savez comment il y a des gens qui disent moi si je fais ça pendant...
Vous l'abîmez, voix.
Oui, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis très admiratif des garous ou des gens qui ont cette voix vraiment qui racle, mais ils ont habitué leur voix à faire
et
ça.
Et ils n'ont pas des voix de ténor. Quand vous êtes seul chez vous, Vincent Niclot, que chantez-vous pour votre plaisir ?
Je chante, alors, je chante ce qui me passe par la tête, mais un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. Peut-être que si j'ai entendu quelque chose à la radio ou que j'ai écouté un disque et tout, tout d'un coup, c'est mon moment à moi où je laisse mon cerveau délirer.
Et il paraît que vous adorez l'électro.
J'adore ça, oui. Et dans mes productions d'ailleurs, si vous écoutez, mais même dans Esperanto. C'est-à-dire que même dans les chants sacrés, j'ai mis derrière des sons électroniques. Mettre des sons électroniques, ce n'est pas faire de la techno ou obligatoirement, c'est se servir de l'actualité, des sons qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant.
Alors, dans la plupart des pays, on aime les chanteurs à voix. Les États-Unis, le Canada, l'Italie. En France, on a le sentiment qu'il y a toujours un petit fond de réticence face aux voix puissantes, magistrales. D'ailleurs, Goldman demandait à Céline Dion, quand elle enregistrait donc en France, il lui demandait vraiment de chanter dans la retenue. Comment vous expliquez ça ?
Je ne sais pas, je crois que c'est culturel. Je crois que c'est vrai que, par exemple, vous savez, ici, en France, j'ai besoin à chaque fois de presque m'excuser de chanter un peu fort. Non, mais c'est vrai.
Par exemple, on le reprochait aussi à Lara Fabian.
Oui, c'est vrai. Mais quand j'écoute ceux qui analysent, on va dire les journalistes, ils ont l'air de dire ça. Mais si on se fie au public, en tout cas, moi, j'ai un public qui m'est fidèle depuis pas mal d'années maintenant. Et ça veut dire qu'il y a quand même une audience pour les voix. Et
bien
à chaque
sûr.
Fois que je voyage dans la France, vous savez ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on me dit « Oh, votre voix !» Voilà, et moi c'est le meilleur compliment. Donc ça veut dire que les gens aiment les voix quand même. Mais peut-être que certains médias n'aiment pas trop ça. Alors bah, tant pis, peut-être que je vais les faire changer d'avis.
Voilà.
En tout cas, moi j'adore ça. Et dans les autres pays, je suis accueilli comme un chanteur, voilà, comme les autres.
Bon, Vincent Niclot, si l'année 2021, attention, ressemble à ce qu'on attend désespérément d'elle, vous allez vous lancer dans quel genre de tournée ? Vous allez concrétiser quel genre de projet ? Vous nous avez parlé là rapidement donc du téléfilm, peut-être un film, je ne sais pas si le tournage se fera en 2021, mais déjà en ce qui concerne les concerts et puis les tournées à l'étranger.
Alors, les tournées à l'étranger, j'ai eu la chance d'être invité par Sarah Brightman, qui est la plus grande soprano au monde, dans le monde entier. J'ai fait le tour du monde avec elle. Ça a été interrompu à cause du Covid. J'avais moi-même une tournée mars, avril, mai que j'ai dû annuler complètement parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir la reprendre. Donc, vous avez deux choix, ou annuler ou reporter. Mais j'en connais, ça fait déjà trois fois qu'ils reportent. Donc, moi, je préfère être sûr et puis redonner des dates qui sont sûres. Mais hier encore, j'ai chanté dans une église orthodoxe. C'était chargé de choses incroyables. Et j'ai envie de... On est en train de monter une tournée dans les cathédrales, les plus grandes cathédrales de France. Et j'espère qu'on, avec les normes sanitaires, on pourra faire cette tournée.
Il n'y a pas de plus belle acoustique que celle des cathédrales.
Puis franchement, j'ai eu la chance déjà de le faire. Vous avez l'impression d'être... Vous savez ce qu'ils disent, les croyants ? Ils disent que la voix, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. Ben moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, quand je chante ce répertoire, j'ai l'impression de monter un petit peu plus haut.
Comme lorsqu'on écoute votre album qui vient de sortir, Vincent Niclot et les prêtres orthodoxes. Album baptisé Esperanto et vraiment interprété avec... cette ferveur qui manque tant à l'époque. Merci infiniment de vous être confié ainsi.
Isabelle,
mais quelle histoire incroyable que celle de votre chemin de vie. Et il y a tant de chapitres encore à écrire.
Voilà. J'espère. Merci beaucoup, Isabelle.
Je vous embrasse, à bientôt.
Moi aussi, très fort.